RCF.
Faites ce que l'on vous dit, ne faites pas ce que l'on fait. Voilà en langage contemporain et un peu familier l'attitude des scribes et des pharisiens que Jésus dénonce dans le texte d'aujourd'hui. Ce texte est tiré de l'évangile de Matthieu et ce qui est au centre, c'est l'hypocrisie de ceux qui misent sur leur apparence mais dont les actes ne sont pas cohérents avec ce qu'ils disent. Jean Massonnet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation dans cette émission. Vous êtes prêtre du diocèse de Lyon, vous êtes bibliste et avec vous, nous allons essayer de comprendre le sens de ce texte, non seulement à l'époque où il est écrit, mais aussi ce qu'il peut nous dire aujourd'hui, la manière dont il peut résonner dans nos vies aujourd'hui et en quoi, finalement, il est une bonne nouvelle. Mais pour commencer, je vous propose d'écouter cet évangile, tiré donc de l'évangile de Matthieu. Au chapitre 23, nous écoutons les versets 1 à 12.
En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et il déclara « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de père, car vous n'avez qu'un seul père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé.
Voilà ce texte de l'évangile de Matthieu au chapitre 23, Jean Massonnet. Pour comprendre un texte, il est essentiel de le situer dans l'ensemble de l'évangile dont il est extrait. Alors à quel moment ce texte intervient-il dans l'évangile de Matthieu ?
Alors oui, il intervient, disons, plutôt sur la fin, hein. On pourrait dire, si je prends la division que propose la Bible de Jérusalem, il y a 28 chapitres au total, des chapitres 19 au 25. Voilà. Et il y a, dans cette avant-dernière grande partie, il y a deux parties, une section appelée dite section narrative, avec des actions de Jésus, des discours aussi, du chapitre 19 au chapitre 23. Et puis après, au chapitre 24-25, un discours eschatologique avec des représentations fantastiques, on repense à la ruine de Jérusalem, tout ça. Et ensuite, c'est la passion et la résurrection. Bon, oui, si on peut appeler ça partie narrative. Et je voudrais signaler comment elle se termine, cette partie narrative. C'est notre texte qui la termine en réalité, mais c'est précédé de différentes controverses. Il y a l'impôt dû à César. Ensuite, on a le débat sur la résurrection des morts. Et ensuite, le plus grand commandement. Et alors là, avec ces deux textes, on se rend compte, si on veut bien le comprendre, qu'on est en accord, que les pharisiens, pas les sadducéens qui ne croient pas à la résurrection, mais ceux-là, ils se mettent de côté. Hein, mais avec les pharisiens qui sont porteurs de la tradition que reçoit le peuple aujourd'hui et que reconnaît Jésus en plus, hein, faites ce qu'ils vous disent, hein, voilà. Eh bien, ça nous met dans un accord extrêmement profond avec le fond même de la tradition juive.
Alors, qui sont les pharisiens et qui sont les scribes, Jean Massonnet ?
Alors, les scribes, disons, ce sont on pourrait dire des savants par rapport aux pharisiens, hein, qui écoutent, qui interprètent l'écriture, qui la recherchent, etc. Et il peut y avoir des scribes pharisiens, bien sûr, hein, ou parfois peut-être des scribes sadducéens, c'est un point possible.
Les exégètes de l'époque, les scribes?
Oui, enfin des assez spécialisés dans le titre de la Torah, mais les pharisiens le sont aussi, ils s'intéressent, hein, ils vont étudier, mais bon, peut-être pas tous, mais disons pour les scribes, on a quelque chose, disons les savants, pour faire vite. Mais disons, c'est tout un groupe ensemble, hein, les pharisiens font partie aussi de ces gens qui s'intéressent de très près à la Torah. Alors, un des textes qui précède immédiatement notre passage, c'est « Quel est le plus grand commandement ?» hein. Et là, il y a une référence aussitôt avec la grande référence d'Israël, répétée chaque jour encore aujourd'hui, « Écoute Israël, Shema Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. » Et Jésus est d'accord avec ça. Hein. Et Jésus lui-même va dire « Écoute Israël !» Et puis, ça se termine juste après, il y a une petite controverse, où Jésus pose la question à propos du psaume 110, au verset 1, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur », c'est David qui parle, et qui dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur ». Alors, on dit que le Messie est fils de David, mais là, David le prend pour son Seigneur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et les pharisiens ou scribes ne répondent pas. Et à partir de ce moment-là, nul n'osa plus l'interroger. Donc, il n'y a plus de dispute. C'est Jésus qui prend la parole et qui...
A le dernier mot, en quelque sorte.
Oui. Donc, il pose la question, c'est tout. Il répond pas, mais il pose la question. Les autres la ferment, ils disent pas, parce que c'est une bonne question d'ailleurs.
Donc, on en est là au moment où ce texte intervient, alors, celui qui nous intéresse aujourd'hui.
À partir de ce moment-là, c'est Jésus qui va attaquer, hein, qui va agresser. Agresser, c'est peut-être pas le mot, mais quand même.
Il est sévère, hein, dans ce texte.
Oui, fortement. Il va être sévère avec ces 12 versets là contre les scribes et les pharisiens. Et surtout, ça va se poursuivre par une série de 7 malheureux êtes-vous, de 7 malheurs, à la suite du chapitre 23. À la suite du chapitre 23, ça va encore s'aggraver, là. Ça va s'aggraver, ça va être vraiment une sorte d'agression contre les pharisiens.
C'était de malédiction, même.
Oui, mais c'est quand il y a des malheurs dans la Bible, c'est jamais des malédictions, c'est des gros avertissements. Attention à ce qui vous arrive si vous vous convertissez pas. C'est ça le sens. C'est pas vous êtes perdu à jamais. C'est pas une malédiction, au contraire. Je termine avec ces malheurs. Ça va se terminer par une lamentation sur Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, combien de fois j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Eh bien, votre maison va vous être laissée déserte, parce que Matthieu pense à la destruction de Jérusalem, qu'il a peut-être vu, qui a déjà existé, et qui remet dans la bouche de Jésus comme une sorte de prédiction après l'événement. Donc, votre maison va vous être laissée déserte, c'est épouvantable ça pour cette prune de Jérusalem, c'est pas rien, jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ». Et là, c'est l'accueil de la rédemption, l'accueil du Jésus peut penser à lui, sans doute, car Matthieu y pense. Hein. Donc, c'est vraiment la rédemption finale. Donc, on est sauvé. Hein. Tout ce passage difficile se termine par une espérance.
Jean Massonnet, je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse de Lyon et bibliste, et avec vous, nous découvrons ce texte tiré de l'évangile de Matthieu au chapitre 23, les versets 1 à 12. Dans ce passage, le mot « hypocrisie » n'est jamais prononcé, pourtant il plane ce mot. Est-ce que c'est ça qui est au fond le centre du propos de Jésus et ce qu'il dénonce?
Oui. Il dénonce une sorte de simulation. On cache quelque chose, on n'est pas vrai, hein, on n'est pas cohérent avec ce qu'on dit, avec ce qu'on impose, avec on a un comportement qui ne correspond pas du tout à ce que devrait être une vraie, véritable relation d'accueil de la parole de Dieu, du chemin Israël dont on vient de parler. Voilà.
On est plus dans
du faux.
Oui, du faux et puis de l'apparence. Oui. On donne à voir quelque chose de tout à fait présentable.
On donne à voir et on se donne à voir. soi-même. On se donne à voir soi-même. C'est le centrage sur soi. Le centrage sur soi. D'ailleurs, c'est quelque chose qui nous... Disons, cette tendance-là, elle est enracinée en nous. Ce désir d'apparaître, d'être soi. D'abord, d'être reconnu. Ça, c'est légitime, ça. D'être, on a tous besoin d'être reconnu. Mais si ce besoin se transforme en un repli sur soi-même... on peut déjà passer, parce que derrière toutes ces critiques-là, moi je sens le pape actuel, qui dit, combien de fois il dit, cette auto-référentialité. C'est moi. Alors, le problème, on a besoin d'être connu, ça c'est logique pour tout le monde, on en a besoin, tout le monde a besoin. Mais si, à partir de là, je me hisse au-dessus des autres, je me coupe des autres, je vais me perdre, je vais me perdre, parce que c'est... en accueillant les autres, en étant ouvert à tous, que je me retrouve moi-même.
Et puis autre chose qui est présente dans ce texte, c'est l'exigence de ces personnes vis-à-vis des autres, qui leur impose d'appliquer une certaine discipline, oui. Un certain mode de vie qu'eux-mêmes ne respectent pas.
Ben voilà, oui, c'est ça, en gros, pour dire vite, c'est ça, quoi, en résumé. Alors, d'abord, ce que disent les pharisiens, Jésus le dit bien, ou Matthieu, parce qu'il faut penser, il y a le temps de Matthieu, de Jésus, puis il y a le temps de Matthieu. Matthieu qui a affaire à, disons, dans les années 80, on le situe à peu près là, à ce moment-là, au développement de l'Église qui grandit, mais qui est encore faite de judéo-chrétiens, et qui vont à la synagogue, qui ont envie d'aller à la synagogue. Et Jésus dit, ils sont sur la chair de Moïse, faites ce qu'ils disent, car ce qu'ils disent, c'est bien, il faut le faire. Mais bon, le problème, c'est qu'ils ne le font pas, c'est ça. Et pour Matthieu aussi, c'est pareil. En fait, on a peut-être des gens qui vont à la synagogue à ce moment-là. Voilà, alors ils disent et ne font pas. Voilà. Alors le verbe « faire », faire. Il y a un grand passage dans la tradition, et c'est dans l'Exode, au chapitre 24. Moïse vient d'annoncer les exigences de l'Alliance. Donc on dit ça au peuple, et le peuple dit « d'accord ». Il note ça d'accord, il dit « oui, nous ferons ». Et nous écouterons. Ça commence par dire « nous ferons ». Ils prennent ça sans bénéfice d'inventaire. C'est la parole de Dieu, on va faire. Et l'importance du faire est quelque chose, c'est premier. Et après, on va écouter, et écouter, c'est comprendre. À force de faire, on sera dedans, on comprendra, on verra. Mais l'importance du faire est fondamentale dans le judaïsme.
C'est à ça que fait référence Jésus, là ?
Pas directement.
Enfin,
Matthieu. c'est l'un ou l'autre. Oui, c'est l'un ou l'autre. Mais disons, c'est cet aspect-là, bien sûr, c'est l'importance du faire, quoi. Il faudra voir l'équipe de Saint-Jacques aussi, qui dit à la fois si tu n'as pas les œuvres, etc. Il s'agit de faire. Or, bon, eux, ils disent ce qu'il faut faire, mais ils ne font pas. C'est un défaut ou une tare qui a pu exister aussi chez nous, dans notre Église.
Mais faire quoi ?
Faire quoi ? Qu'est-ce que je vais vous dire, moi ? Il y a après la destruction du temple, il y a des juifs complètement tétanisés par cette chose affreuse. Ça a été très dur, même pour les chrétiens, c'était un choc étonnant. Qui ont décidé de jeûner, c'est-à-dire de ne rien prendre de tout ce qui a servi à construire le temple. Alors il y a un rabbin qui est venu leur dire, le rabbi Yoshua, qui est venu leur dire, écoutez, mais si vous faites comme ça, c'est pas possible. Enfin, pour construire le temple, il fallait beaucoup de choses, il fallait de l'eau en particulier. Alors vous n'avez pas Bordeaux, c'est ça. Alors après cette discussion qui calme un peu les gens, il y a une maxime qui dit, on n'impose pas à la communauté plus qu'elle ne peut porter. Plus qu'elle ne peut porter. Alors si on impose des choses qui sont dures, ceux qu'ils imposent ne les feront pas. Mais la communauté non plus.
Ça désespère, finalement.
Oui. On est dans la ritualité, dans la ritualité, et non pas dans l'accueil d'une parole qui est au contraire repos, qui est nourriture.
Juste une petite précision. Ils élargissent leur phylactère et rallongent leur frange. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Leur phylactère. Phylactère, c'est des... On voit parfois des juifs qui prient et qui mettent des lanières autour du bras, sur la tête aussi, avec des petites boîtes qui contiennent des passages de l'Écriture. C'est commandé d'ailleurs dans l'Exode chapitre 13, on voit très bien le commandement de se mettre ces phylactères.
Ces lanières autour du bras.
Ces lanières autour du bras qui contiennent deux boîtes, une sur le front, l'autre sur le bras et en face du cœur. Donc le front. Le front, la pensée, disons, le cœur, la réception de l'amour, etc. Tu aimeras le Dieu de tout ton cœur, etc. Et puis, la main, l'action. Hein, il faut faire aussi. Hein, y a ces deux, alors, c'est une unité. Et avec ces petites boîtes-là qu'on a sur soi, on a la parole de Dieu. On fait corps avec elle. Et ça, c'est aussi un idéal juif qui prend corps déjà avant Jésus. On le sait, avec des maîtres comme Hillel, qui va se poursuivre et que les Juifs reconnaissent, faire corps avec la parole de Dieu, avec la Torah, c'est-à-dire être comme une sorte de rouleau de la Torah vivant. Voilà. Donc, vous voyez, le sens de ça... Alors, les pharisiens qui sont critiqués ici, c'est qu'ils profitent de ça pour eux se mettre en valeur, pour dire qu'ils font mieux que les autres. Peut-être que ces boîtes, ils les font un peu plus grandes, parce que c'est comme les lanières, on voit pas bien comment les élargir, mais c'est ils en remettent, quoi, pour montrer qu'ils en font plus que les autres. Alors, ils se replient sur eux-mêmes, là, une sorte de petite autosatisfaction, pour dire, voilà, moi, je suis très bien, quoi, hein, très, très pieux. Et ça, évidemment, c'est nul, quoi, ça vaut rien.
Mais alors, quand Matthieu dénonce, ou Jésus dénonce sous la plume de Matthieu, ses comportements, qu'est-ce que Matthieu veut dire aux communautés auxquelles il s'adresse ? Est-ce qu'il faut abandonner le judaïsme ? En quoi la venue du Christ, la venue de Jésus, change quelque chose et inverse la tendance ?
Ce qui veut dire surtout, et peut-être également, ça peut résonner pour les auditeurs, soit de Jésus, soit de Matthieu, hein, voilà ce qu'il ne faut pas faire, mais c'est aussi pour dire, il faut se retrouver notre vraie tradition, hein, qui est, disons, pervertie par le comportement des responsables, hein, qui se prennent pour les mettre au-dessus de tout. Hein. Donc c'est une invitation à ne pas faire comme eux, c'est-à-dire à entrer dans la véritable tradition d'Israël.
Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Alors évidemment, Jean Massonnet, ces versets résonnent d'une manière tout à fait particulière pour nous aujourd'hui, et peut-être en particulier pour les catholiques, car c'est écrit noir sur blanc. Vous permettez que je vous appelle Jean Massonnet ?
Oui, bien sûr, oui, même Jean tout court, hein.
Alors, qu'est-ce qu'on en fait de ce verset ?
Ben, c'est sûr qu'on l'a pas respecté du tout. Hein, Monseigneur, éminence, béatitude, mon père, etc. Plein. C'est révélateur, si vous voulez, d'une notion pharisienne, mais vraiment très ancrée, hein, où chacun mérite le respect auquel il a droit, parce qu'il est, lui aussi, une expression vivante de la parole de Dieu. Peut-être tout de suite, je passe à une tradition à peu près de cette époque ou un peu plus tard, mais enfin, on est dans le bain général, hein, de cette pensée. Je la dis un peu vite. Hein. À partir de quoi tu peux dire que si un homme entend une parole dans la bouche d'un petit en Israël, un petit, hein, c'est à ses yeux comme s'il l'entendait de la bouche d'un maître, d'un sage, hein, d'un pharisien ou peut-être d'un légiste. Hein. Et non seulement l'entendant de la bouche d'un sage, mais de la bouche des sages, au pluriel, de tous. Hein. Et non, on en remet, et non seulement de la bouche des sages, mais en entendant de la bouche du Sanhédrin, c'est-à-dire du Concile universel, je ne sais pas, quelque chose comme ça, de tous. Hein. Et on en remet, et non seulement en entendant de la bouche du Sanhédrin, mais de la bouche de Moïse. Alors là, on remonte vraiment à source, hein, à la source de Moïse, hein, ce petit. Et non seulement de la bouche de Moïse, mais de la bouche de la Toute-Puissance. Moïse qui a entendu ça de la Toute-Puissance. Eh bien, un petit en Israël peut dire quelque chose qui vient vraiment de la bouche de la Toute-Puissance. Et il faut accepter de revoir cette parole de lui. Et alors, à ce moment-là, on se prend plus pour un rabbi, on se prend plus pour un maître, on se prend plus pour un seigneur qui sait tout, qui va donner la vérité à l'autre. on l'écoute et on le reçoit. On le reçoit d'un petit. Voilà. Alors, je pense que ça illustre la pensée profonde de cette tradition qui nous est traduite. Reprenons la Pentecôte, hein, chacun attendait, recevait pour la Pentecôte, chacun, l'Esprit Saint est donné à tous, il se partage hein, sur chacun, et il donnait à chacun de s'exprimer selon ce qu'il était. Hein.
Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. C'est comme ça que se termine ce passage.
Oui, eh bien, bon, il est bien conclu. Hein. Et là, je vais vous dire aussi une parole d'un grand maître qui a précédé Jésus, hein, qui dit, c'est à propos de l'accord de cette école initiée par ce maître qui était capable d'écouter les autres et les adversaires. Hein, et qui dit, quiconque s'abaisse, le Saint béni soit-il, c'est-à-dire Dieu l'élève, il dit ça. Hein, mais quiconque se tourne vers la grandeur, hein, pour être un maître, pour être un chef, hein, la grandeur le fuit. Hein, la grandeur le fuit. Mais quiconque fuit cette grandeur, la grandeur se tourne vers lui. Donc, c'est un appel, mais qui résonne dans la tradition juive avant Jésus, hein, puisqu'on le réfère à Hillel. De même, ce Hillel, hein, à propos d'un passage dans l'Écriture où, quand tu es invité, c'est Jésus qui dit, quand tu es invité, ne va pas prendre la première place, parce qu'on risque de te dire, mon pauvre vieux, t'es un petit peu trop haut, descends, s'il te plaît. Puis devant tout le monde, quelle honte! Hein, donc, pour la dernière place, puis si on fait monter dessus, c'est très bien. Et Hillel, en suivant ces discussions à ce sujet-là, hein, il va dire « Mon abaissement, c'est mon élévation, hein, et mon élévation, quand je me prends pour quelque chose, je m'écrase, c'est mon abaissement. » Voyez.
Donc, dans ce texte, ce qui est rejeté, c'est pas le judaïsme.
Ben, pas du tout.
C'est certaines tendances, mais comme il y en a à peu près partout.
C'est une caricature de la tradition. Voilà. C'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est une invitation, sur le fond, à dire revenons à cette véritable tradition.
Et qui nous concerne tous.
Bien sûr, qui nous concerne tous.
C'est important à préciser dans le contexte actuel. Ce n'est pas un rejet du judaïsme.
C'est pas un rejet du judaïsme. Je répète qu'après ces 12 versets, il va y avoir quelque chose de plus dur encore, hein, cette fois, malheureux êtes-vous, pharisiens, malheureux êtes-vous, avec des reproches qui n'en finissent pas. Et ça se termine par non pas une malédiction, mais une lamentation. Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. C'est des belles images. Mais voilà, eh bien, votre demeure va vous être laissée déserte. Et quand Matthieu dit ça, il la voit, la maison déserte, c'est le temple. Hein. Eh bien, la sanction est là, ça y est, c'est fini, maintenant on n'en parle plus. Jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hein. C'est donc là, ce qu'on appelle dans notre langage un peu spécialiste, la parousie, l'avenir du Seigneur, enfin la rédemption, on peut dire. Hein. Voilà. Et donc c'est ouvert à la rédemption, et Israël, évidemment, sera au premier plan dans la rédemption.
Il est évident aussi que ce texte résonne d'une manière particulière dans le contexte que traverse actuellement l'Église catholique. Il y a le scandale des abus, il y a le synode initié par le pape François pour peut-être remettre un certain nombre de choses
absolument
à leur place.
Absolument, oui, tout à fait. Alors pour les abus, premièrement, les abus qui ont défigurer notre Église de ces décennies, depuis longtemps, tout ça, c'est encore pire que ce qui est reproché aux pharisiens. C'est pire, quoi. Les pharisiens, je n'étais pas là-dedans. Enfin, j'espère, en tout cas.
En tout cas, ça n'est pas le propos du texte.
Non, pas du tout. Et alors, maintenant, disons, évidemment, ça nous remet dans l'actualité du synode, qui est une route ensemble, où on s'écoute les uns les autres. Hein. Alors, quelques mots, disons, du pape François à ce sujet-là, qui sont comme un écho à ces versets de Matthieu, ça c'est sûr, c'est actualisé. Et, mais vraiment, le pape François a vraiment compris ça, il est allé au cœur des problèmes. Hein. Et en particulier, il va s'adresser, souvent quand il s'adresse aux responsables. Et les responsables, ben, c'est qui? C'est les évêques. Hein. C'est les cardinaux, c'est les évêques. Les prêtres aussi, on va pas, on peut se mettre dedans. Hein. Et puis maintenant, ça peut toujours être un petit responsable d'association. Très bien.
Oui, c'est partagé. Les laïcs ne sont pas exempts de...
Absolument pas. Mais alors, ceux qui sont en responsabilité, disons, sont plus tentés que les autres. Hein. J'ai des responsabilités. Et c'est une vraie croix. Ça peut être une vraie croix pour eux, hein, pour eux, de dire... d'écouter la communauté, puis la communauté me dit autre chose que je pense, mais enfin, est-ce que c'est moi qui ai raison, c'est elle ? Changer, hein, changer, se trouver à l'intérieur, se trouver changer à intérieurement. Et ça, c'est s'il y a une, disons, s'il y a une ascèse ou une croix, ben, oui, une croix parfois, hein, ça peut être ça, hein, eh bien, elle se situe là. Elle se situe là, non pas dans les macérations qu'on va faire, ou les jeûnes, ou les privations, hein, c'est accepter intérieurement d'être touché. De toucher parce que l'autre dit, et puis reconnaître, le recevoir et s'enrichir de cette réalité-là. À ce moment-là, on n'est pas seigneur. Hein. Par exemple, alors ce que dit François, évidemment, sur le cléricalisme, hein, il va dire au Chili, hein, il va dire les laïcs ne sont pas nos ouvriers ni nos employés. Hein. Ils ne doivent pas être des perroquets qui répètent ce qu'on va leur dire, hein, ce qu'on aimerait bien. Hein, on leur dit, on leur donne un mandat, vous allez faire... Non, non, pas du tout. Et c'est eux qui ont... Hein. Alors souvent aussi, quand il critique aussi en recevant des nonces et des nouveaux évêques, hein, disons, d'éviter le ridicule de la mondanité, hein, de être soi, être toujours ce repli sur soi qui nous coupe des autres parce qu'on est centré sur soi. Et ça, c'est une tentation, faut pas dire. C'est parfois bête, hein, c'est petit, c'est rien du tout. Hein, c'est bon, ils élargissent leur phylactère, alors qu'est-ce que je vais faire ? On va se sentir très bien dans des environnements qui nous mettent à la différence des autres et un peu au-dessus, c'est quel bonheur, tout ça. C'est enfantin, c'est rien du tout, mais c'est grave quand même.
C'est-à-dire que là, on est invité à nourrir notre vie intérieure plutôt que nos apparences, nos responsabilités les avantages parfois que ça procure.
Mais oui, et puis c'est surtout, c'est l'ouverture aux autres, quoi. C'est l'ouverture à autrui et qui ne peut s'accompagner que de l'ouverture à la transcendance divine. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Le Seigneur est un parce qu'il est capable de susciter toutes les différences, que nos différences sont réelles, ce n'est pas des erreurs. Et puis, elles sont en référence avec cette transcendance infinie de Dieu qui permet de rassembler dans l'unité tout ce que nous sommes chacun différents les uns des autres, parce que nous sommes tous une expression de cette parole infinie. Et ça nous oblige à nous ouvrir, vous voyez. Disons, si on s'ouvre à cet infini du Dieu un, transcendant, hein, si je m'ouvre à cet infini, je suis capable de recevoir les diversités réelles de mes frères et sœurs. Pas celles de ceux qui se prennent pour des petits seigneurs. Ça, on ne peut pas le recevoir. Celui qui a la vérité définitive, je vais te dire, et si tu ne fais pas ce que je dis, tu es perdu. Alors là,
à fuir.
À fuir, ouais, de toute façon, à fuir, voilà. C'est une caricature.
Merci beaucoup, Jean Massonnet, de nous avoir éclairé sur ce passage de l'évangile de Matthieu. Je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse de Lyon et que vous êtes bibliste. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de cette émission et merci à Hugo Vincent qui était à la technique.